Il me souvient avoir lu, il y a quelque temps, un article qui a fait sur moi une profonde impression. L'auteur, un évangéliste très âgé, raconte la visite que lui fit un jeune homme, lequel lui déclara d'un air ennuyé, mais assez énergique, qu'il ne pouvait plus croire en Dieu. Que peut-on répondre à cela? Le vieil homme trouva pourtant la réponse, qui a ici le sens de solution, car il dit aussitôt au jeune candidat à l'athéisme « Viens donc t'asseoir et dis-moi en quel Dieu tu ne crois plus. » Après quelques instants qu'employa son jeune ami à vider son sac plein de reproches, d'amertume et de désillusion, il lui dit simplement « Tu as raison, moi non plus, je ne crois pas en ce Dieu-là. » Certains penseront peut-être que cet homme a usé d'une stratégie subtile pour éviter d'aborder un problème ô combien épineux. Mais nous pouvons objectivement constater qu'il entre au contraire en plein cœur du sujet, car il sait, dans sa longue expérience avec les âmes, que de nombreuses personnes ne croient pas ou ne croient plus en Dieu parce qu'elles ne connaissent pas, ou ce qui est parfois pire, connaissent mal la véritable nature de Dieu, du seul Dieu vivant, selon la fière expression biblique. Le Dieu des hommes est ainsi souvent caricaturé, déformé, incomplet, trop petit et par conséquent insuffisant, inadéquat. Lorsqu'il s'agit d'aborder les problèmes de la vie et de la mort, en dehors du contexte religieux, personne ne se sent vraiment très à l'aise. Le fond du problème en ce qui concerne la foi dans notre monde moderne est le fait que de nombreuses personnes ne semblent pas avoir trouvé un Dieu suffisamment grand pour répondre à leurs besoins présents et à leurs inquiétudes. Leur expérience de la vie s'est étendue dans toutes les directions. Leur savoir s'est considérablement accru dans de multiples domaines. Avec les événements mondiaux et les découvertes scientifiques, leur pensée atteint des horizons qui leur donnent le vertige. Mais leur foi n'a pas grandi au même rythme, en même temps. Elle est restée endormie au stade de l'enfance. Alors, lorsque viennent les problèmes professionnels, politiques, sociaux ou familiaux, ils essaient de réveiller la douce confiance d'autrefois. Mais ils ne retrouvent que la foi de leurs 10 ans, les connaissances religieuses de leurs 15 ans. Tout cela est bien insuffisant pour affronter des épreuves d'adultes. Le vêtement est devenu trop petit, alors il craque. Alors on le délaisse, on l'abandonne et on déclare qu'on a perdu la foi. Beaucoup d'hommes et de femmes vivent ainsi aujourd'hui, souvent dans une profonde insatisfaction, sans aucune forme de foi en Dieu. Non parce qu'ils sont particulièrement égoïstes, mauvais ou impies, mais parce que leur esprit d'adulte n'a pas trouvé un Dieu à sa dimension, un Dieu assez grand, capable de s'insérer harmonieusement dans cet âge où règne la science. Ils n'ont pas trouvé un Dieu assez grand, capable de répondre à leurs aspirations les plus profondes, aux questions les plus fondamentales, un Dieu qu'ils pourraient respecter, adorer et servir en tant qu'adulte. Nous allons voir tout d'abord, en 2 études successives, certaines fausses conceptions de Dieu couramment entretenues en de nombreux esprits et comment elles empêchent de connaître le vrai Dieu. En ce qui concerne de nombreuses personnes, la conscience est à peu près leur seule conception de Dieu. Cette petite voix qui reproche, accuse et provoque le remords, c'est la voix de Dieu. C'est elle qui, dans une certaine mesure, détermine et contrôle leur comportement. On ne saurait évidemment exclure la fonction vitale de la conscience dans le développement de la vie intérieure. Elle permet de pressentir l'ordre moral suprême, dont elle est un embryon. Mais faire de la conscience son Dieu est une chose dangereuse, car nous l'avons déjà souligné dans nos études précédentes plus d'une fois, la conscience est loin d'être un guide infaillible dans l'existence d'un homme. Elle peut se laisser facilement apprivoiser, bâillonner ou même pervertir, car elle est sujette à l'éducation à laquelle on la soumet. Chez certaines personnes trop sensibles, elle peut s'hypertrophier de telle manière qu'elle constitue en définitive un Dieu fort déplaisant, cause de multiples tourments. En outre, il est peu probable que nous soyons jamais enclins à adorer, aimer et servir cette petite voix qui ne se manifeste que pour nous gâcher le plaisir, ou au mieux pour garder plutôt négativement notre vie sur le sentier de la vertu. Comme elle occupe une place si importante dans le comportement d'un homme et qu'elle est si vulnérable, Il faut qu'elle s'éduque convenablement. Il faut qu'elle grandisse elle-même au même rythme que la foi et l'intelligence. Elle atteint sa maturité lorsqu'elle se confond avec la volonté de Dieu. Et comment un homme connaîtra-t-il jamais la volonté de Dieu s'il ne fréquente pas assidûment la parole de Dieu ? Certains croyants ont transporté jusque dans leur vie adulte l'image d'un solennel vieillard à barbe blanche. C'est l'idée de Dieu que se font la plupart des enfants. Ils conçoivent Dieu tout d'abord à travers leur père. Et puisque Dieu est encore plus vieux que papa, c'est qu'il doit être très vieux en vérité. En soi, cette représentation est inoffensive. Elle est naturelle chez l'enfant. Mais peut-elle se tolérer chez l'adulte ? Elle s'y rencontre pourtant encore trop souvent, plus souvent qu'on ne le pense. Et là, elle est dangereuse, en ce qu'elle fait envisager Dieu non seulement comme un personnage très vieux, mais aussi très démodé. Ce Dieu-là convenait très bien à nos ancêtres, aux circonstances de vie presque primitives. Mais aujourd'hui, à l'âge de l'atome et des fusées spatiales, on ne voit pas très bien où il a sa place. Récemment, un groupe mixte de jeunes gens a été soumis à un simple test psychologique, dans le but qu'il ne leur fût pas révélé tout de suite, de vérifier si cette idée de Dieu subsiste encore dans l'inconscient. Il leur fut demandé de répondre sans réfléchir à la question « Croyez-vous que Dieu comprenne le radar ?» Dans presque chaque cas, la réponse instinctive fut « non », suivie évidemment d'un rire dès que l'esprit avait mesuré l'absurdité de la réponse. Cet exil de Dieu, dans un passé lointain, a longtemps été encouragé et entretenu par le vocabulaire religieux, ce jargon pastoral et clérical plus que rébarbatif, et par une liturgie moyenâgeuse qui laisse l'impression très nette qu'il faut aller retrouver Dieu dans le passé, le rencontrer sur son terrain où il se sent à l'aise, car on ne peut quand même pas s'attendre à ce qu'il s'adapte aux complexités de la vie moderne avec ses machines et son rythme essoufflant. Il est évident que ce vieillard débonnaire, ce Dieu du passé, ne peut satisfaire qui que ce soit, car l'esprit recherche le Dieu vivant du présent pour faire face aux exigences d'aujourd'hui. Il est une autre forme de la divinité que l'on invoque souvent, c'est le doux Jésus. La seule évocation du mot « Jésus » fait surgir en de nombreux esprits l'image d'un pâle jeune homme, presque timide, aux traits réguliers, à l'aspect presque efféminé, plein de tendresse, un doux rêveur, avec pas plus d'autorité que le Père Noël. Il est indéniable que cette conception du Christ conduit de nombreuses personnes à considérer le christianisme comme une aimable et respectable sentimentalité, mais qui est tout à fait incapable de s'insérer dans les dures réalités de la vie moderne. Est-il nécessaire de dire qu'une seule lecture intelligente de la vie de Jésus telle que nous la livre le récit des évangiles suffirait à corriger cette conception éthérée de la personne du Christ ? De toute évidence, on ne connaît pas ce Jésus qui dénonça avec véhémence l'hypocrisie des bien-pensants et des religieux de son temps, qui avait assez de personnalité et de conviction pour braver la foule meurtrière, qui pouvait laisser éclater son indignation devant les exploitations scandaleuses de la religion, ce Jésus que les autorités considéraient comme un danger public qu'il fallait supprimer, qui avait assez de courage pour délibérément marcher à la mort afin d'accomplir sa mission jusqu'au bout. Loin de nous l'idée de vouloir minimiser la réelle douceur du Christ et son humilité. Mais lorsque ces caractéristiques sont les seules que l'on souligne, on obtient une image déformée, une caricature grotesque, qui ne peut convenir qu'à ceux en qui prédomine une sentimentalité morbide et ignorante. Faute de connaître le vrai Christ, la jeunesse a tôt fait d'abandonner ce tendre berger pour se tourner vers d'autres héros. Et plus tard, elle n'aura pas la pensée de faire appel à ce Dieu tendre, doux et sentimental, car que pourrait-il changer à la vie trépidante de notre monde moderne ? Nous nous arrêterons ici pour aujourd'hui. Lors de notre prochain rendez-vous, nous aborderons la seconde partie de notre étude.